Chers amis, je vous propose de commenter maintenant le texte qui était proposé au chapitre 14, notre vocation baptismale. Ce texte est tiré de l'épître aux Éphésiens, et c'est un texte qui a très mauvaise presse parce qu'on a pas mal de difficultés à le comprendre de façon ordinaire. On le considère comme un texte qui est dépassé, un texte d'une époque de l'oppression patriarcale et de la non-reconnaissance de la valeur des femmes, un texte que l'on caricature comme si il n'y avait d'écrit que les phrases suivantes « Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. » Puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Voilà, souvent on a l'impression que dans le texte, il n'y a que ces phrases, et ces phrases enchaînées de cette façon-là, qui nous donneraient un peu l'idée que, eh bien, mesdames, soyez soumises à vos maris parce que vous n'avez pas de tête. Hein, voilà. Eux ont une tête, vous, vous êtes des perpétuels mineurs, donc soyez soumises à ceux qui ont une tête. Alors ceci est une vraie caricature du texte, et je voudrais avec vous prendre un petit peu de temps pour le comprendre en profondeur. L'intérêt de ce texte est qu'il vient jeter une lumière tout à fait originale sur le bien de l'époux, le bien de l'épouse, et comment leur interaction apporte une lumière particulière sur le monde. Il est cependant important, dans un premier temps, avant de regarder le texte lui-même, de donner un mot d'explication sur le contenu de l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens a toute une première partie dont l'objectif est de montrer comment le Christ a renouvelé l'humanité, pour comment le Christ et le baptême qu'il nous a partagé donnent une humanité nouvelle, ouvre la porte à une humanité nouvelle. Et puis à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, saint Paul donne des conseils pour que la grâce qui a été acquise par le Christ et qui est partagée à travers le baptême ne soit pas perdue. Et donc il va donner un certain nombre de conseils aux uns aux autres, dont le conseil donné aux époux pour qu'ils demeurent dans cette humanité renouvelée par le Christ, pour qu'ils demeurent dans leur vocation baptismale, pure, intacte et rayonnante. À l'intérieur de cette série de conseils, il faut également remarquer que le conseil aux époux est un conseil donc qui va aux deux, au sens que il n'y a pas de conseil donné à l'épouse qui tiendrait sans que le conseil soit donné aussi à l'époux. C'est parce qu'il y a un conseil à l'épouse qu'il y a un conseil à l'époux, c'est parce qu'il y a un conseil à l'époux qu'il peut y avoir ce conseil à l'épouse. Si vous enlevez l'un des deux, l'autre perd sa validité. Il faut que les deux soient donnés ensemble. Cela étant dit, on s'apercevra donc que ce conseil va commencer par une phrase qui est comme un chapeau sur tout ce qui va être dit. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Il y a donc un chapeau sur ce conseil donné aux époux d'une soumission mutuelle par respect par le Christ. Une soumission mutuelle qui est motivée par l'amour mutuel dans lequel les époux sont appelés à grandir. Alors qu'est-ce que ça signifie? Du coup, c'est une soumission pour la vie, une soumission par amour. En comprenant que qu'est-ce que c'est que cette soumission? C'est « je mets la puissance de ma vie au service de la vie de l'autre ». Je mets la puissance de ma vie, la puissance de mes qualités, la puissance de mes ressources au service de la vie de l'autre. Soyez soumis les uns aux autres par respect pour le Christ dans l'amour. Voilà le chapeau qui va être la clé de compréhension de tout ce qui va suivre. Enlevez ce chapeau, le reste du texte n'est pas intelligible. Vient alors la première partie du conseil, le conseil à l'épouse, je lis. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. La première réaction que l'on a, c'est que nous ne sommes pas à l'aise avec le mot de soumission. Pourquoi ne sommes-nous pas à l'aise avec le mot de soumission? Parce qu'il renvoie dans notre esprit à l'esclavage, où un être humain est privé de sa liberté, est privé de sa dignité, de façon injuste par un autre. Un maître a réduit un autre homme qui aurait dû être libre en esclavage, et donc il y a une oppression qui est en fait ici. Y aurait-il donc une oppression légitime entre le mari et la femme? Aucunement, les textes de la Genèse étaient très clairs dessus, l'homme et la femme sont image de Dieu ensemble, dans le projet de Dieu il y a création de l'homme et de la femme, l'Adam à l'image de Dieu est créé homme et femme, et les deux sont cohéritiers de la création. Ils sont appelés non pas à dominer l'un sur l'autre, mais à dominer ensemble sur la création. Le rapport qui les caractérise entre eux, c'est un rapport de secours mutuel, un secours mutuel qui évoque le secours divin. Donc pas du tout un rapport d'oppression, pas du tout un rapport où l'un aurait une dignité supérieure à la dignité de l'autre. La soumission dont il est question n'a pas un motif autre que celui de l'amour. Ce n'est pas un motif biologique, ce n'est pas un motif de capacité intellectuelle, ce n'est pas un motif de dignité. C'est une soumission qui s'ancre dans l'amour. Et on va essayer de comprendre du coup ce qu'elle implique. Rappelons-nous aussi que lorsque l'on donne un conseil, c'est soit pour éviter un mal, soit pour améliorer quelque chose. Eh bien, essayons de comprendre en quoi ce conseil de la soumission évite un mal et améliore une chose. Le bien qui est recherché, c'est l'éveil et le développement de la générosité et de la responsabilité du mari. C'est une chose que l'on peut observer, c'est que la générosité et la responsabilité masculine, ce sont des choses qui se déploient parce qu'on les sollicite. L'homme prend moins spontanément les devants pour apporter son aide. Et du coup, soit on le sollicite, et il va découvrir qu'il est capable d'aider, et même qu'il est heureux d'aider, soit on ne le sollicite pas, et bon, il va rester de son côté. Alors, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, cette différence entre l'homme et la femme, va être utile dans l'éducation du petit enfant. Ouais, le petit enfant qui ne parle pas encore, ben, il va falloir prendre les devants pour aller à son secours. Vous imaginez que si vous restez à côté de lui et que vous lui dites « Mais là, ça fait une demi-heure que tu pleures, je sais bien que tu as 3 semaines, mais exprime-toi, dis ce dont tu as besoin. » Il est incapable de dire ce dont il a besoin. Il va falloir anticiper sur ce dont il a besoin. En revanche, quand l'enfant a découvert le langage, eh bien, c'est le faire grandir que de lui apprendre à dire ce dont il a besoin, et pas de toujours anticiper ce dont il a besoin. Il y a une étape de son autonomie qui va passer par le fait de le laisser, de lui demander, même d'exiger de lui, qu'il exprime, qu'il demande ce dont il a besoin. Et donc, l'homme dont on ne sollicite pas la générosité peut rester, j'allais dire, paresseusement de son côté, en disant, si tu avais besoin, tu m'aurais demandé, puisque tu ne me demandes pas, eh bien, je ne m'engage pas, je ne me fatigue pas. Ainsi, quand l'épouse remet sa vie dans les mains de l'époux, elle sollicite cette générosité, elle sollicite cette responsabilité. Elle va lui donner l'occasion, l'opportunité de se mettre en œuvre. Elle va, d'une certaine manière, on pourrait dire presque, le secouer pour que cette générosité apparaisse, se mette en place, que l'homme la découvre et qu'il y découvre sa joie. Et d'une certaine manière, cette remise de sa vie de l'épouse va permettre à l'époux d'advenir à sa capacité de générosité et de responsabilité. Le fait que l'époux advienne à sa capacité de responsabilité, de générosité, est un grand bien pour l'épouse, parce qu'elle va trouver alors que son époux est une aide concrète, est une aide aussi attentive, est une aide efficace, et non pas une espèce de poids mort et paresseux qui reste de son côté en ne faisant rien. Là encore, quelques expériences de l'éducation de l'enfant peuvent être éclairantes. Au départ, le père peut être assez mal à l'aise de se trouver avec le petit enfant dans les bras, et étant un peu mal à l'aise, peut rapidement essayer de le refiler à l'épouse, surtout s'il est face au regard des autres, où il pourrait apparaître incompétent. Et en même temps, on va trouver la même personne qui, dégagée du regard des autres, est tout prêt à se mettre à quatre pattes et à jouer avec l'enfant. Et donc, il y a là, s'il y a une sollicitation de la part de la mère à mettre l'enfant dans les bras de l'époux pour qu'il s'en occupe, pour qu'il apprenne justement à s'en occuper, eh bien, le père se rend compte que, non seulement il en est capable, qu'il acquiert une capacité, une efficacité, une compétence, et qu'il en est même heureux. Et parce que du coup il en est heureux, il devient une aide efficace, présente, attentive pour son épouse. Celle-là se réjouira encore plus de voir que son époux est également un bon père. Donc, premier point, la remise de la vie de l'épouse dans les mains de l'époux est une sollicitation de la générosité et de la responsabilité de l'époux qui l'a fait advenir, qui lui donne de pouvoir se développer. Deuxième point, le mal que l'on veut éviter par ce conseil donné à l'épouse de remettre sa vie dans les mains de l'époux. Le mal qui est à éviter dans ce cas-là, c'est une tentation de contrôle et de contrôle un peu universel. C'est ce que parfois en psychologie on appelle la mère universelle. C'est la femme qui veut tout contrôler, qui veut tout d'une certaine manière garder dans son sein et qui ne laisse pas d'autonomie. Elle est tellement protectrice que tout doit être sous son contrôle. Et elle ne laisse pas l'autonomie se développer. Surprotectrice, elle ne donne pas les conditions pour qu'une juste autonomie puisse advenir. En remettant ma vie entre tes mains, je me garde, pourrait dire l'épouse, de ce risque de vouloir tout contrôler, de vouloir tout conserver en mon sein. J'allais dire, pour prendre cette image, lorsque la femme porte un enfant, lorsqu'elle le fait grandir en elle, c'est pour le mettre au monde. Il va falloir le donner au monde. Et d'une certaine manière, il y a un contrôle qu'elle abandonne pour que justement l'enfant puisse advenir, pour puisse se déployer. En remettant sa vie entre les mains de l'époux, comme d'ailleurs elle remettra l'enfant dans les mains de l'époux, elle renonce à ce risque d'un contrôle total et un peu totalitaire qui pourrait la menacer. Vous voyez, un risque qui est en fait la conséquence de la blessure du péché lorsque Dieu disait « ta convoitise te poussera vers ton mari ». C'est une convoitise qui veut mettre la main surtout, qui veut tout contrôler. Eh bien, on met un écart, on met une distance face à cette tentation. Ce conseil à l'épouse, s'il peut avoir du sens, est quand même vertigineux. Et pour comprendre comment il peut être vécu, il nous faut regarder le conseil à l'époux. Mais on va ménager un petit peu de suspense et éviter que l'enregistrement soit trop long. Ainsi, le conseil à l'époux sera sur l'enregistrement suivant.